6-9, France Bleu Provence.
7h46, David, le village du Vernet dans les Alpes d'Haute-Provence, entièrement bouclé depuis hier.
Parce que c'est là qu'une mise en situation va être menée aujourd'hui, près de 9 mois après la disparition du petit Émile. 17 personnes convoquées pour rejouer tout ce qui s'est passé l'après-midi du 8 juillet. Jacques Delleste, vous avez été juge d'instruction, procureur de la République de Marseille. Ça veut dire quoi, une mise en situation? C'est pas une reconstitution, hein?
Non, en fait, c'est ce qu'on appelle en droit un transport sur les lieux. C'est-à-dire que les juges d'instruction ont décidé de se rendre sur place, dans le village, non pas pour reconstituer, puisque personne n'est mis en cause dans ce dossier.
Il n'y a pas de suspect.
Non, pas de suspect, mais pour visualiser certainement les lieux et entendre ou réentendre un certain nombre de personnes qui ont été témoins jusque-là, de façon à sans doute approfondir leurs investigations et leur enquête.
C'est assez rare de faire ça.
C'est pas fréquent. Je l'ai fait comme juge d'instruction. Il m'est arrivé de me déplacer pour me rendre compte, encore une fois, des lieux, de leur topographie, de mieux comprendre peut-être ce qui a pu se passer. Et malheureusement, pour une disparition, toutes les pistes étant possibles, il faut évidemment que les juges trouvent le plus grand nombre d'éléments qui peuvent éventuellement les conforter dans une thèse, ouais, vers une thèse plutôt que vers une autre.
Mais attendez, vous pensez que les enquêteurs, ils peuvent avoir des soupçons sérieux sur l'une des personnes ou deux qui étaient présentes au Vernet le jour de la disparition et qu'ils vont observer son comportement, ou c'est pas ça?
C'est possible. Vous savez, lorsqu'un enfant disparaît, il y a deux orientations possibles. Soit l'enfant disparaît réellement, il s'en va, il fugue et il tombe dans un trou, c'est une possibilité. Soit c'est l'intervention d'une tierce personne. Et là, il y a beaucoup d'orientations possibles. Un accident, un enlèvement, un acte de prédation, etc. Donc, j'imagine que depuis le début de l'enquête, un grand nombre de vérifications ont été faites. Sans doute beaucoup d'autres sont en cours. Et peut-être que à la suite de cet acte, des choses vont se débloquer. Je pense que les juges escomptent que est-ce qu'il y a une évolution possible dans cette affaire.
Il peut y avoir un coup de théâtre, c'est possible ça?
C'est possible, mais vous savez, souvent on attend beaucoup des actes de justice, souvent ils sont plus neutres qu'on l'imagine. Et puis même si les éléments positifs sortent de cet acte de justice, les juges ne vont pas le révéler. Et c'est normal, il faut conforter ce qu'ils peuvent avoir récolté comme information, vérifier. C'est tout un travail de minutie, de longue haleine qui doit se faire dans la plus grande discrétion.
Vous avez raconté, vous, des affaires non résolues dans votre livre, des cold cases. Est-ce que pour les enquêteurs, c'est un échec de ne pas trouver ?
Oui, c'est un échec pour les enquêteurs, pour les magistrats. Je l'ai vécu, malheureusement, un certain nombre de crimes de sang non résolus. Ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est grâce à l'évolution scientifique, on peut résoudre des affaires anciennes. Et donc, il ne faut pas baisser pavillon, être défaitiste en disant « c'est fini, on n'arrivera à rien ». On doit ça à la famille, aux proches de la victime, et ça doit être une démarche de justice qu'il faut absolument mettre en place aujourd'hui.
Mais quand on a eu votre carrière, on continue dans la tête d'être procureur ou juge. Vous avez quel regard sur cette affaire? Le grand-père, vous en pensez quoi du grand-père, par exemple?
Vous savez, rien de particulier. Quand je parlais d'une intervention d'une tierce personne, ça peut être une personne qui du village, ça peut être quelqu'un, un touriste de passage, ça peut être quelqu'un dans l'entourage de l'enfant. Et ça, c'est ça qui donne la complexité de cette affaire. Si on écarte l'hypothèse d'une chute accidentelle du petit, tout le reste est extrêmement large. Donc c'est vraiment un travail très très long. Il faut espérer qu'il soit couronné de succès, mais encore une fois, il ne faut se priver d'aucune possibilité en disant « ça, ce n'est pas possible, ça, c'est improbable ». Je crois que c'est l'erreur. Et un certain nombre d'affaires n'ont pas été résolues dans le passé parce que on partait sur une hypothèse et on ne voulait pas en démordre.
C'est l'effet tunnel, hein, c'est ça, on est dans un tunnel.
L'effet tunnel, voilà. Ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est ce qui fait qu'on a du mal à revenir sur sa conviction et à envisager d'autres hypothèses. Et on a, dans l'histoire criminelle, énormément d'affaires où la solution était très étonnante et on n'y pensait pas immédiatement.
C'est encore plus mystérieux pour vous que l'affaire Grégory, par exemple?
Oui, encore que des disparitions de personnes, d'enfants, il y en a beaucoup. Grégory, là, on partait sur un assassinat manifeste.
Avec un corps.
Un enfant jeté à l'eau, avec un corps. Ce qui d'ailleurs permet d'investiguer sur le corps. Le problème de la disparition, c'est que par définition, la victime n'est plus présente. On n'a pas de corps. Et donc, il faut essayer de retrouver la personne vivante ou malheureusement souvent décédée, et à partir de là, faire un travail d'investigation, d'analyse, d'étude du corps pour trouver des indices qui peut-être amèneront vers l'auteur, vers le coupable.
La disparition de ce petit Émile, c'est à la fois évidemment très angoissant et puis passionnant parce que c'est une enquête. Merci Jacques Delleste. Je recommande votre livre, hein, Cold Case, un magistrat enquête chez Mareuil Édition.
Merci à vous, hein, et belle journée. Et évidemment, l'interview est à partager sur l'appli ici par France Bleu et France 3.